capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba interdit aux ministres de recourir aux entreprises de l'État sous tutelle pour financer les dépenses de leur cabinet. Selon le Premier ministre, ces pratiques sont contraires à la bonne gouvernance et constituent une grave entorse à l'acte d'engagement éthique auquel les membres du gouvernement ont individuellement adhéré. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook afin d'interagir avec l'ensemble des compatriotes ici au pays et à l'étranger. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Polydor Basunga, Pierrot Elameji et Nico Kalambay concourent tous à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Georges Kapiamba, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes le coordonnateur des activités de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Vous avez suivi l'actualité comme nous. Comment commentez-vous cette actualité?
Bon, l'actualité est enrichie par plusieurs faits dernièrement. Il y a, vous savez, la dernière en date, celle qui est relative au crash ou à la disparition de l'avion Antonov qui transportait la logistique présidentielle. Mais je sais aussi qu'il y a cette question que vous venez d'évoquer dans votre émission relative aux dispositions, aux instructions que le Premier ministre vient de donner au ministre en charge du portefeuille pour que toutes les entreprises et les établissements publics soient rappelés à l'ordre en ce qui concerne l'interdiction formelle, leur fait de contribuer aux charges ou au fonctionnement des cabinets ministériels. Donc, nous pensons que ce sont des questions de l'heure et nous pouvons en discuter.
Est-ce qu'il y a eu des cas patents dans des gouvernements passés, ou bien
plusieurs que nous avons eu apporté à la connaissance de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, notamment au ministère du Travail. Nous avions eu apporté à la connaissance à son temps au Premier ministre Tshibala le fait que l'établissement public connu sous le nom de l'ONEM contribuait à la hauteur chaque mois de 30 000 dollars au motif que c'est cet établissement qui devait prendre en charge les frais de fonctionnement des missions des membres du cabinet du ministre. Nous avons eu à dénoncer ça. Nous avons eu à son temps aussi à dénoncer le fait que plusieurs organismes qui sont sous la tutelle du ministère des Transports et Communications, notamment l'OEBK et d'autres, contribuaient chaque mois à la hauteur de 30-40 000 dollars au fonctionnement des cabinets. Et nous avons eu dernièrement les mêmes informations s'agissant encore des ministères des Transports que ces mêmes organismes étaient tenus à continuer à provisionner les cabinets du ministre. Donc, ce sont des faits qui se passent généralement dans tous les ministères et il était plus que temps que le Premier ministre agisse et nous le soutenons dans cette démarche parce que c'est de cette manière qu'on peut remettre quand même de l'ordre dans ces entreprises publiques, dans les établissements publics qui ne sont pas créés pour appuyer les ministères, mais pour contribuer au moins à l'émergence d'une administration fiable, mais aussi permettre aux agents et fonctionnaires de l'État qui travaillent à avoir une vie décente.
Oui, mais c'est selon certaines personnes, c'est lié également au contexte politique qui impose d'ailleurs la contribution de certains mandataires de l'État à l'effort de politique de leur parti politique finalement.
Oui, mais cette pratique doit cesser. C'est vrai que ça existait de cette manière. Ça allait de contributions imposer aux mandataires, aux charges des partis et regroupements politiques, mais aussi aux charges ou au fonctionnement de leur ministère des tutelles. Ça doit prendre fin parce que ça fait partie de la mauvaise gouvernance. Ce sont des antivaleurs, c'est de la corruption, c'est vraiment le détournement des fonds publics. Donc, il faut vraiment que ça cesse. Mais pour y arriver, je pense qu'en dehors des instructions, des rappels à l'ordre faits par le Premier ministre, il faut rapidement réhabiliter les contrôles permanents, notamment de l'inspection générale des finances, de la Cour des comptes. Il faudrait que ces instruments de contrôle de l'État puissent s'activer, fonctionner, commencer à faire des contrôles improvisés au sein des entreprises, au sein des établissements, mais aussi au sein des cabinets ministériels. Vous savez que les cabinets ministériels qui sont passés de l'ancien gouverneur et gouvernement, ils sont partis, mais il y avait énormément de détournements, notamment des fonds, des frais affectés au transport des agents, du personnel politique administratif, aux frais, aux indemnités kilométriques. Tout cela, nous avons eu à les dénoncer, à porter ça à la connaissance du procureur général pour la Cour de cassation, mais rien n'a été fait. Voilà à quel niveau l'action qui vise à combattre la corruption, le détournement, n'arrive pas à atteindre son but. C'est parce que finalement, on n'est pas soutenu par la justice.
Oui, la crainte, c'est cet hiatus qui y a souvent dans les dires, entre les dires et le faire. C'est une décision, oui, mais en pratique, comment cela doit être fait?
Alors, en pratique, il faut des missions de contrôle, comme je venais de l'écrire. Il faut réactiver les contrôles permanents, réguliers, improvisés, des organes de contrôle qui sont connus dans notre pays. Il y a l'inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes, qui doivent faire ces contrôles de manière permanente, de manière à dénicher quelques actes ou quelques faits allant dans le sens de constater, par exemple, les actes de corruption ou de détournement. Et lorsque ces faits sont révélés, il faudrait qu'il y ait immédiatement des sanctions administratives, disciplinaires, où des gens, les auteurs et complices de ces faits doivent être immédiatement mis à la disposition de la justice.
Oui, mais maître Georges Kapemba.
La justice doit agir.
Oui, mais maître Georges Kapemba, nous avons vu certains syndicats réagir quant à cette situation pour dénoncer certaines de ces pratiques, mais ces syndicats ou ces syndicalistes se sont vus arrêter parce que, c'était les partis politiques qui primaient d'abord.
Bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui nous avons le cas d'un syndicaliste qui est en détention à la prison de Makala, condamné à une...
Oui, au niveau de la SONAS, il y a les syndicalistes qui sont révoqués parce qu'ils ont dénoncé par le passé certaines choses.
Voilà, c'est ça. C'était un environnement qui était un environnement de corruption, de détournement. Mais il manquait aussi une volonté politique. Aujourd'hui, avec l'intervention du Premier ministre, nous considérons que c'est déjà là un acte de portée politique important qui doit permettre à tous les acteurs de se mobiliser, se mettre debout. Ces acteurs-là, ça sous-entend les syndicalistes, les acteurs de la société civile, les agents fonctionnaires de l'État eux-mêmes qui sont préjudiciés par le fait que leur argent est tout le temps envoyé à des personnes qui n'en ont pas droit, et on leur impose une vie difficile, ils sont difficilement payés, ou quand ils sont payés, c'est toujours des salaires de misère. Donc, nous devons tous nous mobiliser, mais faire aussi pression sur la justice, parce que lorsqu'il n'est pas normal, que lorsque les syndicalistes, comme les cas que nous venons d'identifier là, les syndicalistes dénoncent des détournements dans les chefs, soit des ministres, des mandataires de l'État, mais que la justice puisse tout simplement poursuivre les syndicalistes sous le coup de ce qu'ils appellent dénonciation calomnieuse ou diffamation, mais ils ne recherchent pas à savoir si les faits sont établis ou non dans les chefs de la personne qui est dénoncée. Donc là, il y a vraiment une sorte de solidarité passive qui se dégage dans les chefs des acteurs de la justice. Et ça doit se faire. Les membres de la justice, les magistrats et consorts doivent contribuer à la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Ils doivent cesser de se comporter comme ils l'ont fait durant les 18 ans passés. Ils doivent même.
Alors, donc, si je comprends bien, oui, avant d'ouvrir les standards, maître Georges Kapemba, si je comprends bien, par rapport à cette décision, il y aura quand même des effets directs au niveau des entreprises et au niveau du vécu quotidien.
Bien sûr, parce qu'il est maintenant du devoir du ministre en charge du portefeuille qui doit écrire à tous les mandataires, aux responsables des établissements publics, en leur disant qu'il leur est interdit de donner un quelconque sou au ministre, soi-disant ministre des tutelles. Et en posant cet acte, ils vont s'exposer à des poursuites à la fois disciplinaires, mais aussi judiciaires. Et il faudrait que les organes de contrôle, tels que je l'ai cité, soient activés, qu'on les laisse faire leur travail, de manière à aider l'État, aider le Premier ministre, le Président de la République, toute la communauté congolaise, à s'assurer que les mandataires, ceux qui ont la charge des biens de l'État, les gèrent conformément aux règles que nous avons tous acceptées.
Voilà, on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Marcel Didier Bassoua qui est à Luisa et Olivier Akikwit. Et nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre également, ils peuvent aussi participer à cet échange citoyen en composant bien entendu les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous disons que le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba interdit aux ministres de recourir aux entreprises de l'État sous tutelle pour financer les dépenses de leur cabinet. Selon le Premier ministre, ces pratiques sont contraires à la bonne gouvernance et constituent une grave entorse à l'acte d'engagement éthique auquel les membres du gouvernement ont individuellement adhéré. Et comment commentez-vous cette actualité, Marcel? Vous êtes à Luisa, bonjour.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour également à Maître Kapemba qui est avec vous comme votre invité. Monsieur Gier, je souhaite que par votre micro que je puisse partager ma compassion à toutes les familles victimes du crash de l'avion logistique présidentiel. Pour revenir dans le débat, Monsieur Gier, j'ai toujours voulu vous dire ce que je vous ai dit que en latin on dit res non verba, c'est-à-dire les actes, surtout les paroles, c'est-à-dire nous voulons la pratique et la théorie beaucoup plus. Cette actualité, ça a piqué mon intellect et aussi ma façon de répondre à ceci. Vous allez comprendre, M. Juillard, que nous devons saluer cet acte du Premier ministre Ilunkamba qui a pensé que il faut interdire de recourir aux entreprises publiques ou soit dans les entreprises pour que les ministères des tutelles puissent s'en suivre. Mais une chose, monsieur Suggère, que je vais résumer par rapport à cette actualité, c'est un problème d'abord de préalable. Si nous voulons réussir à cette activité, il faut qu'il y ait les préalables. Il faut qu'il y ait également les suivis et il y ait aussi des garanties et aussi qu'il faut placer la justice au centre de tous les intérêts. Qu'est-ce que je parle pour les suivis? C'est-à-dire que nous devons suivre de plus près ce qui va se dérouler pour qu'il puisse passer à l'audit convenable. Le préalable, c'est-à-dire quoi? C'est rendre compte si ces gens, c'est comme le président Kapemba l'a dit là-bas, c'est rendre compte si ces gens-là ne sont pas issus des partis politiques auxquels ils devront obéir par la suite. Et à force de ne pas obéir, de donner une forme de quotité à leurs autorités morales et consorts, vous allez voir que les mêmes autorités morales vont démettre ou déchoir le poste qu'ils ont occupé aujourd'hui, faute de quoi? De n'avoir pas obéi, de n'avoir pas obtempéré aux ordres de pouvoir donner de l'argent à des sommes colossales. Ici, ça va nous départir également de l'enrichissement illicite, de la corruption et de la mauvaise gouvernance dont il est question. Pourquoi j'ai dit cela, monsieur Gier? Vous allez vous rendre compte qu'un mandataire dans une entreprise publique quelconque, il a reçu les injonctions du ministère des tutelles de pouvoir débloquer un montant. Et vous allez voir que c'est par ces biens-là que ces derniers aussi profitent aussi pour enlever aussi une somme assez plus importante.
Oui, mais Marcel, il y a d'autres qui ont réagi sur notre page Facebook en disant, mais qu'est-ce que signifie alors sous tutelle si à ces derniers on veut priver tous les avantages et d'autres privilèges auxquels ils doivent bénéficier de cette tutelle?
Oui, mais c'est ça le problème. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que bien sûr que ça peut être comme ça. Les avantages doivent être logiques, monsieur Gier. Ce n'est pas profiter pour entrer dans le déficit et puis pénaliser toute la population au détriment de certains individus qui doivent mettre les intérêts dans leur poche, monsieur Gier. Mm-hmm. C'est ça le problème. Alors, il faut que nous puissions faire pour l'intérêt communautaire que pour les individus. Vous allez voir avec vous aujourd'hui, vous, un individu, vous êtes en train de travailler pour la population, mais vous allez voir que parce que votre patron a déjà tout pris, vous rendez compte, par exemple, que monsieur Gier, là où vous êtes, vous avez grévé tout simplement parce qu'on vous dit que dans la tête, il n'y a rien et que tout a été rétrocédé, ministère de tutelle, par exemple. Qu'est-ce que ça va vous faire comme agent là-bas?
Merci beaucoup, Marcel. Donc, pour vous, vous estimez comme les autres. Merci beaucoup, Marcel, parce que si nos entreprises publiques aujourd'hui se retrouvent en difficulté des trésoreries, c'est notamment lié par rapport à cette mauvaise pratique que tous vous décriez. Merci beaucoup, Marcel. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Gilles, bonjour, et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution, Olivier?
Oui, Gilles, moi je souhaite seulement une bonne chance au Premier ministre, parce que en donnant cette instruction, il sait de quoi il parle, puisqu'il a été lui-même responsable d'une grande entreprise publique, la SNCC. Alors, je me dis que, en principe, ce n'était même pas nécessaire qu'on ait des instructions, parce que il n'y a aucun texte qui dit que les entreprises du portefeuille doivent financer les dépenses de leur ministère de tutelle. Ça n'existe pas. Ça signifie que l'argent généré par les entreprises doit entrer dans les comptes du Trésor. Et nous avons la Cour des comptes qui est là pour nous éclairer. Or, vous conviendrez avec moi que depuis que la Cour des comptes existe, le rapport est pratiquement un rapport secret. Quand on en parle, c'est là qu'il y a un problème, mais on n'a pas le souci de dire à la population que la Cour des comptes a révélé ceci.
Oui, oui, mais Olivier, quand on parle on parle d'une entreprise sous tutelle, en quoi elle est sous tutelle et quels sont les avantages?
En fait, sous tutelle, pour moi, ça signifie quoi? Ça signifie que le ministère des tutelles a le droit de regard sur les orientations rentables, les orientations politiques, orientations économiques de cette entreprise-là. Mais ce n'est pas pour que le ministère prenne l'argent. L'argent appartient à l'État.
Donc, juste un regard consultatif.
Oui, c'est ça, justement. C'est un droit de regard. Alors,
aucun avantage.
Le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que nous avons un système qui a été savamment établi. Le système a été établi et vous avez vu, lorsqu'il a fallu nommer le responsable de la GECAMINE dernièrement, le Premier ministre a eu des difficultés, enfin, le président a eu des difficultés pour trouver des noms et il a fallu que les gens se mettent d'accord. Donc, les partis politiques se sont mis d'accord pour que, à la GECAMINE, on mette celui-ci, à SNCC, on mette celui-là. Et donc, le problème, c'est celui-là. Alors, nous avons un autre problème, JR, c'est quoi? C'est que, en fait, les entreprises sont gérées par des personnes qui sont désignées. Et quand vous prenez le cas de la RVA, nous avons parlé, plusieurs fois, on a parlé du
GOPAS.
Mais cet argent est géré par qui? C'est par le responsable lui-même. Il peut donner à qui il veut. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes n'est pas dans ce circuit-là. Et pourquoi? Parce que le gouvernement lui-même n'a pas le souci que l'argent serve à la République. Donc il y a un laisser-aller qui n'est pas un laisser-aller hasardeux. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est fait exprès. Et je pense que pour le moment, si le Premier ministre a une solution, pour moi je me dis que c'est pour se dédouaner, mais en réalité il connaît le système. Et personnellement, vraiment, j'ai beaucoup de doutes.
Parce donc que c'est un système qui a déjà pris des racines. C'est difficile de le démanteler. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on va accorder la parole à Jonas, qui est à Kananga. Jonas, bienvenue dans l'émission Parole aux auditeurs. Jonas, bonjour.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Gier.
Oui, quel est votre avis?
Oui, comme tout le monde, avant de commencer, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos frères qui ont perdu leur vie dans le crash. C'est tout le monde qui connaît ça. Alors, pour revenir à la question que vous venez de me poser, nous saluons formellement, chaleureusement, frénétiquement la mesure qui vient d'être prise par le Premier ministre. Mais nous sommes en train de nous demander si réellement cette mesure sera mise en compte et il y aura des suivis. Si le point de vue se veut réussir, cette mesure qui est vraiment une mesure pour moi salvatrice pour permettre au pays d'avoir des moyens qui puissent aider à résoudre les problèmes à travers le pays, il faudrait dans un premier temps qu'il y ait aussi un comité restreint de suivi en toutes les entreprises et dans tous les ministères. Qu'il y ait aussi des audits réguliers pour voir comment l'argent qui avait été alloué à tel ou tel autre ministère est en train d'être dépensé et que les déficits qui seront, par exemple, relevés soient justement justifiés. Et que si ce n'est pas, si cette justification n'est pas logique, il faudrait que les coupables soient punis de manière vraiment exemplaire, de façon à permettre aux autres de ne pas tomber dans le même piège. Et si, alors, il y a un laisser-aller, si seulement on se limite au mot, comme mon prédécesseur de vise à passer, je salue en passant, comme il l'a dit, nous voulons des actes et non pas des paroles.
Merci beaucoup, Jonas. Alors, on va écouter Maître Georges Kapemba. Tout à l'heure, il y a Olivier qui parlait des sous-titels. Maître, vous êtes juriste. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tous les contours de ces régimes sous-titels? Et quel est le droit qui revient à l'entreprise, au ministère qui a le patronat ou qui a la responsabilité de cette entreprise? Avantage ou privilège?
Voilà. Non, sous tutelle, ça doit tout simplement s'entendre comme une manière d'assurer la gestion administrative ou technique de l'entreprise ou bien de l'établissement de l'État. C'est-à-dire que c'est par les ministères qui en charge cette tutelle-là, c'est par ces ministères que toute la politique qui est décidée par le gouvernement passe et doit être exécutée. Et il faut pas oublier aussi que depuis 2-3 ans, il y a eu déjà une réforme qui est intervenue dans notre pays, qui a fait d'ailleurs que la plupart des
entreprises
n'ont gardé que, par rapport à leur ministère, qu'une gestion purement administrative, un suivi, un accompagnement d'ordre administratif, étant donné qu'aujourd'hui, c'est le ministère de portefeuille qui gère au nom et pour les comptes de l'État la gestion économique de ces entreprises de manière à leur permettre de contribuer à la croissance de l'État. Donc, en réalité, cette tutelle-là n'a plus tellement d'impact comme tel et les mandataires, que ce soit des entreprises ou des établissements, n'ont pas de compte à rendre à ces soi-disant ministères. Mais dans la gestion économique de leurs boîtes respectives, ces mandataires ont des comptes à rendre qu'au ministère du portefeuille.
Alors, à quoi ça sert actuellement le conseil d'administration? Parce que c'est notre acteur qui vient de s'ajouter dans la gestion même d'une entreprise.
Mais c'est le conseil d'administration, effectivement, qui assure...
Qui le rôle, le contrôle.
Oui, le suivi, la mise en œuvre des orientations qui sont prises, qui sont décidées par l'État propriétaire de ces entreprises et de ces établissements. Donc, le conseil d'administration a plus de pouvoir, même plus que les ministères qui autrefois avaient une tutelle sur les soi-disant entreprises ou établissements publics. Et je voudrais terminer pour répondre à notre ami que la mise sous tutelle, même sous l'ancienne forme juridique, ne voulait pas dire que les mandataires avaient l'obligation de fournir ou d'apporter de l'argent aux ministres. Non, les entreprises publiques ainsi que les établissements constituent les biens privés de l'État. Ils doivent contribuer à la croissance économique de la République. Et c'est l'État qui définit la politique à travers les conseils des ministres, mais aussi à travers les conseils d'administration. Et donc, ces entreprises ont l'obligation de générer des recettes, de l'argent pour alimenter les trésors publics. Mais voilà. Ce n'est pas pour alimenter les ministères. Parce que chaque ministère reçoit du compte de trésor chaque
les
mois
de fonctionnement.
De l'argent pour son fonctionnement.
Merci beaucoup.
Pour couvrir les missions des membres de son cabinet. Donc cette pratique-là est inacceptable. En fait, cela est arrivé comme ça parce que la gestion des entreprises n'obéissait que qu'à la politique au lieu d'obéir aux règles des droits et économiques.
Merci beaucoup, Maître Georges, d'avoir accepté de participer dans cette émission. Merci et à la prochaine.
Merci.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Nous avons également le plaisir de recevoir dans ce studio Patrick Kanga qui est avec nous. Bonjour Monsieur Kanga.
Bonjour.
Alors vous êtes rapporteur au bureau politique du PPRD, le Parti pour le Peuple, la Réconstruction et le Développement. C'est bien ça?
Exactement.
Voilà. Alors vous êtes des rapporteurs. Finalement, on sait que le gouvernement qui vient de l'ancien gouvernement a été pratiquement un gouvernement également de la cohabitation, si nous pouvons utiliser les termes, parce que il y avait l'opposition qui était là-dedans. Mais dans l'ensemble, il y avait cette pratique où les mandataires qui étaient désignés par les partis politiques et devaient, dans l'obligation, aussi participer à la survie de ces partis politiques. Bien entendu, en prenant un peu de l'argent au niveau de la caisse de l'État et à contribuer aux activités de partis politiques. Aujourd'hui, le Premier ministre vient de prendre une décision interdisant donc aux ministres de recourir aux entreprises de l'État sous tutelle pour financer les dépenses de leur cabinet. Comment vous réagissez?
Merci pour votre invitation. D'abord, il est important de rappeler qu'il n'a jamais s'agit d'une obligation quelconque pour les mandataires publics de pouvoir répondre aux besoins financiers des ministères. Ça n'a jamais été une obligation. Lorsque le président Joseph Kabila en 2006 est élu démocratiquement à l'issue des élections, de nos premières élections démocratiques, lorsque le Premier ministre Mouzito est nommé, il y a une grande réforme qui est initiée sous son impulsion, notamment celle, la réforme des entreprises publiques, qui ne répondait plus aux besoins qui lui étaient assignés, notamment des besoins de services publics, notamment des besoins de renflouer les caisses de l'État. Et certaines entreprises avaient des missions exclusives par rapport à des services, tels que la fourniture d'électricité, l'électricité, l'assurance, la régie des eaux, des secteurs qui aujourd'hui ont été libéralisés pour favoriser la compétitivité. Donc, il y avait déjà un diagnostic qui avait été fait à l'époque, sous l'impulsion du président Kabila qui avait initié cette réforme. En 2009, le Premier ministre Mouzito va signer le décret, contresigné par Madame Mabunda, qui est aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale, à l'époque ministre du portefeuille. Et le Premier ministre Ilunga, à l'époque, est président du COPIREP, donc de la commission qui pilote les réformes qui ont été initiées par le gouvernement. Donc il sait de quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il interdit ce qui sont des pratiques, mais qui ne sont pas des obligations. Il n'a jamais s'agi des obligations. Les réformes qui avaient été initiées à l'époque...
Mais quand il y a des cas qui sont signés, signalés par exemple...
Je peux finir.
Allez-y.
Lorsque la réforme a été initiée, c'était pour extraire ces pratiques, des pratiques condamnées, des pratiques malveillantes. Mais vous savez que les coutumes ne s'extraient pas de manière automatique. Ce sont des pratiques qui ont pris corps au sein des entreprises pendant plusieurs années. Et les réformes étaient notamment pour rendre les entreprises plus compétitives et pour extraire ce genre d'habitudes. Mais vous savez... Ces habitudes ont perduré et le Premier ministre Ilunga qui est...
Et vous pensez que ça c'est la solution?
Et le Premier ministre Ilunga qui est en phase avec ce dossier, pour avoir été dirigeant du COPIREP, pour avoir été mandataire de l'État, donc il prend une mesure salvatrice.
Plusieurs fois aussi ministre.
Exactement. Il prend une mesure salvatrice pour notamment permettre aux entreprises d'évoluer conformément aux assignations qui lui sont faites par l'État. Mais il y a deux problèmes sur cette question. Il y a des pratiques à extraire, mais il y a aussi l'attitude du mandataire de l'État. Certains mandataires de l'État, lorsqu'ils ont un nouveau ministre de tutelle, ils vont eux-mêmes vers le ministre pour un peu conserver leur poste. Et c'est cette pratique-là qui est faite. Donc, ça va de deux côtés. Donc, il faut, au même moment que le Premier ministre a interdit aux membres du gouvernement de pouvoir...
Donc, vous balayez des revers de la main, tout ce que les gens ont dit, des pratiques qui ont pu dénoncer par le passé, notamment la contribution des mandataires de partis politiques pour la survie de leur parti politique.
La contribution dans un parti politique se fait au travers ses membres. Et les membres qui contribuent notamment en fonction de ce qu'ils perçoivent régulièrement. Ils ont des rémunérations. Quelqu'un qui est rémunéré, qui enlève une quote-part pour son parti politique...
C'est
comme quelqu'un qui enlève une quote-part pour donner une dîme à l'église. Vous n'allez pas le poursuivre pour cela. Il a un engagement
politique. Mais quand quelqu'un prend de l'argent de l'État, de la bien de l'État, pour la mobilisation populaire, une manifestation politique, activité politique.
Ça doit être prouvé. Moi, je pense que...
Parce qu'il y a eu des rapports des syndicalistes et de la SONAS il y a 5-10 ans même, et les syndicalistes qui sont mis aujourd'hui à la porte, à l'époque, parce qu'ils dénonçaient ces genres de pratiques.
On parle d'un cadre générique, je ne parle pas d'un cadre spécifique.
Il y a des entreprises, parce qu'il faut quand même qu'on cite certaines entreprises. Oui. Pour ne pas naviguer à vue.
Je vous dis qu'il y a eu des réformes qui ont été faites. La volonté politique d'un chef de l'État se manifeste notamment par une décision. Cette volonté a été couchée par un décret en 2009, je pense en avril 2009, signé par le Premier ministre Mouzidou. Et ce n'a pas été pris pour rien. Cette réforme a été initiée pour extraire ces mauvaises habitudes qui ont été héritées d'un autre temps pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives. Il y a certaines entreprises qui sont devenues des sociétés commerciales, il y a d'autres qui sont devenus des établissements publics et d'autres des services publics. Et la tutelle n'est qu'une tutelle administrative pour que l'autorité publique, l'autorité de tutelle, puisse suivre les assignations gouvernementales au niveau de ces établissements. Et au cas où ces assignations ne sont pas suivies, ils ont même le pouvoir de sanction dans le cadre conservatoire. Donc, c'est à cela que sert la tutelle. Mais les pratiques...
Les conseils d'administration ?
Le conseil d'administration.
Je voulais juste te poser la question, parce que dans la réforme, on donne beaucoup plus...
Ce que Maître Kapiamba dit qu'il n'y a plus de tutelle, c'est une vaste blague. Ce n'est pas vrai. La tutelle est de mise, en RDC, en France, surtout en France, parce que nous avons quasiment le même régime politique. C'est une tutelle administrative. S'agissant du ministre du portefeuille, il a encore...
Mais sur quoi réside cette tutelle de certains ministères? Est-ce que c'est un droit, ou des avantages ou des privilèges?
Non, la tutelle...
Reste administrative.
La tutelle est administrative. Il y a le pays est dirigé, le conseil d'administration n'est pas membre du gouvernement. C'est le ministre qui est membre du gouvernement. Mmh. Et c'est le gouvernement qui fixe les orientations du pays,
qui
gère le pays au quotidien. Le conseil d'administration c'est le contrôle interne à l'entreprise.
C'est l'assemblée plénière de l'entreprise, si
exactement,
on peut dire.
C'est l'assemblée plénière des entreprises. Mais même lorsque le conseil d'administration prend une décision, elle est avalisée par le ministre de tutelle. Le ministre de tutelle a le pouvoir de rejeter une décision du conseil d'administration. Donc, on ne peut pas dire que les conseils d'administration ont prééminence sur l'autorité de tutelle.
Oui, parce que c'est le cas. Nous avons fait l'émission la semaine dernière sur le cas Miba, où le conseil d'administration révoque les DG, les ministères de portefeuille réhabilitent, et là, on ne sent même pas les ministres de tutelle.
Il y a tous ces problèmes. Voilà. Moi, je pense que la réforme qui avait été faite, il faut qu'aujourd'hui, il y ait peut-être une évaluation des réformes qui ont été entreprises en 2009, 10 ans après, parce que ça tombe pile, ça fait 10 ans que ces réformes ont été initiées. Peut-être qu'au niveau du gouvernement...
Il faut impérativement une évaluation.
Il y aurait eu une évaluation de ces réformes. Est-ce que ces réformes ont rencontré...
Quelles sont les faiblesses ?
Ont rencontré les objectifs qui étaient siennes lorsqu'elles ont été faites. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui peut se faire.
Voilà, c'est un débat qui peut se faire. Pichou, vous êtes à Kwilungongo, Mardoché, à Guadolité et Ifaso, à Kinshasa. Pichou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour à nos invités. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution, Pichou?
En fait, ma contribution à ce niveau de choses, moi je crois que il y a lieu quand même d'appuyer l'initiative qu'a prise le premier ministre. Étant donné qu'il fut un gestionnaire d'une grande entreprise, il connaît au moins les desiderata ou les choses qui se font au niveau de ministère du tutelle. Je donne un exemple. Dans la gestion, ou soit dans les attributions du ministère, si ces gens vont puiser de l'argent pour donner, je ne sais pas moi, au ministre, pour toi, comme l'a dit notre nouveau invité, il y a lieu quand même de penser aussi à ceux-là qui produisent. Comment expliquez-vous une entreprise comme la SCTP puisse avoir des impayements étant donné que cela a été transformé comme étant une entreprise commerciale. Nous allons à la SONAS. La SONAS est une entreprise de production, une grande entreprise. Mais que les agents puissent se plaindre et ces dirigeants, en fait, ces conseils d'administration continuent à exister parce qu'ils sont appuyés par ceci, par cela. Non, M. Juillet, nous devons changer de comportement. Nous devons aimer ce pays, aimer la population. J'ai comme l'impression, les gens qui sont nommés viennent pour travailler pour ceux-là qui les ont envoyés au ministre, qui les ont envoyés à gérer ces entreprises, et non pour le bien-être de l'État congolais.
Oui. Georges Kapiamba a si bien dit que les ministères ne peuvent rien attendre de des entreprises dès lors qu'ils reçoivent chaque mois les frais de fonctionnement. Ça suffit, point barre, pour le fonctionnement de ces services de l'État.
Bien sûr, Gilles, il y a un système, excusez-moi de le dire, dans l'ancien système, dans l'ancien gouvernement. Vous savez que il y a un système qui est né financer le parti politique. Les gens qui sont partis, ils doivent donner de l'argent à leur parti politique pour que leur parti politique puisse fonctionner normalement. Et c'est ça amène ces gens qui sont nommés à détruire toutes les bonnes manières qui
vont. Alors, si je comprends bien, Pichou, à un certain moment, parce qu'on sait que 18 ans durant, c'est le PPRD qui avait les leads, en tout cas politiques, sur même plusieurs coalitions. Donc, en 10 ans, quand on vous entend parler, c'est comme si c'est les PPRD qui a érigé ce système.
En fait, je n'ai pas cité un parti politique, mais j'ai dit le système, parce qu'il y a des individus.
Non, mais entre nous soit dit, c'est le PPRD qui avait les leads, même avec les palous, même avec les autres par après. Donc c'est le PPRD qui avait les leads. Et on avait vu à plusieurs mandataires, en tout cas, qui sont sortis des PPRD.
Évidemment, hier, c'est ça, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que des mauvais commandants. Donc si en tête, il y avait des gens qui pouvaient avoir l'initiative de barrer la route à ces gens qui détruisent des entreprises, ça pouvait aller bien. Mais maintenant que le premier ministre a décidé, moi je crois qu'il faudrait l'encourager et l'appuyer.
Qui est du FCC, et nous l'avons vu lorsqu'il a été nommé, et être reçu au niveau du PPRD. Alors parce que nous avons un invité du PPRD, voilà, Patrick Kanga, vous êtes rapporteur du bureau. On sait que 18 ans durant, le PPRD a eu les leads politiques dans ces pays. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mauvaise pratique, le responsable, c'est le PPRD?
Écoutez, l'initiateur du PPRD, c'est le président Kabila. Lorsqu'il a été élu en 2006, après qu'il ait résolu les problèmes liés notamment à la sécurité, à la division du pays, il a initié une réforme, je venais de vous le dire, en 2009. Cette réforme-là n'a pas été initiée pour rien.
À cause notamment de ses pratiques.
Cette réforme a été initiée à cause des pratiques qui existaient avant même qu'il soit né. Des pratiques qui existaient au sein des entreprises.
C'est pas
le président Kabila qui a fait que la Gécamines tombe en faillite. L'INSS n'existait même plus lorsqu'il était au pouvoir. Des entreprises comme le GFREM. Connaissiez-vous l'INPP il y a 10 ans? Grâce à ces réformes, vous parlez que de la SONAS, mais parlez aussi de Maurice Tshikouya qui fait un travail remarquable au niveau de l'INPP. Et ça, c'est notamment sous le leadership du PPRD. Parce qu'il ne faut pas voir que la facette où il y a des petites choses qui n'ont pas marché. Parlons aussi où ça marchait. La volonté du PPRD a été inscrite au sein de ce décret. Réformer les entreprises, leur doter de plus de compétitivité, la libéralisation de certains secteurs, notamment la SONAS. Aujourd'hui, nous avons l'ARCA, l'autorité de régulation pour l'assurance, qui octroie des licences à certaines sociétés qui veulent œuvrer dans ce secteur-là. La SONAS, aujourd'hui, était
une société... Avec un nouveau souffle au niveau de la tête, le président du conseil d'administration.
Exactement. Aujourd'hui, la SONAS est une société commerciale, donc il y a de la compétition.
Mais qui a perdu beaucoup d'argent par les passés.
Oui, donc elle doit être compétitive
parce
dans
qu'il
sa
devait servir le PPRD.
Dans sa manière. Non, écoutez, le PPRD n'est pas l'endroit où on promeut les antivaleurs. Nous avons un idéal. Créer un nouveau type de Congolais. Nous
donc
avons
ne, des ne nous avons pas que nous la avons a pu soutenir nous le avons, PPRD dans plusieurs activités.
Nous
politiques.
Avons nous avons des valeurs sociales, notamment celles liées à l'amélioration de la vie des Congolais. Mmh. Vous parlez de la SONAS, mais vous, Maurice Tchikouya est membre du PPRD. Madame Agnès Moy de l'INSS est aussi membre du PPRD.
Aujourd'hui, ils les font peut-être
aujourd'hui,
de manière
tacite. Non, pourquoi, où ça va, c'est tacite? Et où ça va, c'est explicite?
Ce qui était patent, c'était explicite.
Non. Aujourd'hui, l'INSS est une entreprise qui est bien gérée. On peut, et n'est pas aimé Madame Agnès Moy, mais il faut le reconnaître. Il n'y a pas d'arriéré de salaire, les retraités sont payés à temps, à terme échu. L'INPP est en train de s'installer presque dans les 26 provinces. J'étais récemment lors de l'inauguration de son siège au Katanga, qui est ultra moderne et qui va permettre à ce qu'on puisse doter à la province des jeunes dont la province a besoin, notamment dans le secteur minier, dans les secteurs de l'ingénierie, dans le secteur de la plomberie. Donc il y a des entreprises qui fonctionnent. C'est vrai, il y a peut-être d'autres qui n'ont pas fonctionné, mais la réforme avait été faite pour extraire ces mauvaises habitudes. Maintenant, s'il y a des endroits où est-ce que nous voyons qu'il y a encore des canards boiteux, 10 ans après, avec le Premier ministre Ilunkamba, il est peut-être temps d'évaluer la réforme et pour rendre encore plus compétitives ces entreprises en fonction des assignations
avant,
de l'État.
Avant cette décision, ou bien bon, la décision tombe à point.
Je pense que là, c'est une facette de la décision. D'abord, on interdit aux ministres de pouvoir
pour les financements de dépenses,
de pouvoir trouver des ressources au niveau des entreprises publiques. Mais il y a aussi la deuxième part des choses où les mandataires eux-mêmes doivent se comporter en bons managers. Il est une chose qu'ils puissent donner une quote-part aux autorités tutelles. Il en est une autre que les mandataires ne puissent pas gérer des entreprises publiques comme des entreprises familiales, comme des entreprises privées, car c'est l'argent de l'État, les assignations qui leur sont faites sont des assignations pour le compte de la population, et ce n'est pas la seule décision qui fera que ces entreprises fonctionnent mieux, mais encore que le management qui s'opère au niveau des entreprises puisse être un management de qualité et dans l'intérêt de la population.
Voilà, on va écouter Mardoché à Guadolité et Joséphine à Boston pour voir à leur niveau quels sont les effets directs de cette décision au niveau des entreprises et au niveau du vécu quotidien. Mardoché, vous êtes à Guadolité. Bonjour Mardoché.
Et bonjour JR et bonjour à tout le monde.
Comment réagissez-vous par rapport à cette décision du Premier ministre?
Ah, c'est une bonne chose. Avant de commencer, je voulais dire ceci. Lorsqu'on est du côté du diable, il est vraiment important de défendre la cause de ce dernier. Sinon, vous allez être en contradiction avec lui et vous allez être automatiquement son opposant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque votre invité est en train de défendre que le PPRD n'a rien fait, je vous informe que l'argent de SONAS a été réservé comme l'argent qui peut soutenir les activités du PPRD. Et non seulement le SONAS, et aussi le SNEL. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup de provinces où il y a le problème des SNEL, il n'y a pas moyen que le SNEL puisse venir et arranger. Prenons notre cas ici aussi, la province du Nord-Ubangi qui souffre maintenant de panne d'électricité. Mmh. La décision du Premier ministre n'est pas une décision qui a été inventée. Le Premier ministre vient du PPRD. Votre invité aussi est du PPRD. Si le Premier ministre a pris cette décision, il connaît la cause, il connaît le pourquoi. Parce qu'il était dans la boîte et il sait ce qui est en train de se passer dans la boîte. Donc, parmi les gens qui sont dans le parti politique PPRD, il y a aussi certaines personnes qui ont la bonne volonté de faire marcher les choses. Mmh. Mais sur 100%, je peux vous rassurer qu'il y a seulement 10% des personnes qui peuvent changer les choses.
Merci beaucoup.
Entre autres, il y a aussi le Premier ministre à l'intérieur.
Merci
donc,
beaucoup.
La décision du Premier ministre
et les sanitaires.
Est sanitaire et nous devons soutenir ça.
Merci beaucoup, Mardoché. Alors, Madame Joséphine, vous êtes à Boston, en Massachusetts, aux États-Unis. Bonjour et bienvenue de la parole aux auditeurs.
Ah, bonjour. Hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, aujourd'hui, je vais dire ceci. Toute chose restant égale par ailleurs, parlant du Congo, et si je dois prendre l'exemple des entreprises, laisser le Congo tel que, c'est les entreprises telles que, avec toutes les réformes qu'on a eues. Dernièrement, M. Lems,
Lems Kamwanya, qui était notre invité.
Oui, Kamwanya, qui a parlé des réformes qu'il avait fait. Laisser le Congo tel que. Je prends l'entreprise, l'exemple de l'entreprise SNCZ, parce que moi je suis de Lubumbashi. Je crois que c'était
SNCC en 96. Aujourd'hui.
96. Oui. Oui, 96, avec M. Classe. Monsieur Classe, c'était un Français qui est venu, c'est de l'Afrique du Sud. Il est venu, il a trouvé la SNCZ telle que, avec tout ce qu'il y avait, mais dans moins d'une année, la SNCZ a marché avec l'équipement qu'il avait trouvé, avec les travailleurs qu'il avait trouvé. Parce qu'il y avait déjà des réformes. Maintenant, je monte. Président Félix, il est venu, il a trouvé, le Congo est là. Avec tous ces gens, avec tous les dirigeants, avec toutes les entreprises, avec toutes les réformes qu'il y a eu, démarrons le Congo. C'est l'homme congolais qu'il faut changer. Vous, l'homme congolais, changez vos cœurs, changez votre comportement.
Merci.
Arrêtons avec les réformes. Le monsieur qui est là, je termine par ici, le monsieur qui est là, il est en train de pointer les gens pour dire que ce n'est pas elle, ce n'est pas le gouvernement passé, mais c'est grave ce qu'il est en train de dire.
Ben voilà, merci. Alors, beaucoup, Madame Joséphine. Et là, ça m'est, disons, il y a quelque chose qui m'étarode l'esprit. Et quand je vois la RVA qui a été citée ici par Olivier à l'époque de Monsieur Jean Assise, et qui avait même initié le Go Pass. Alors, selon les informations que nous avons, Jean Assise a même accepté de refuter ces contrats des sociétés parce que c'était à cause de cette pratique, il devait prendre cet argent et remettre au ministère des Transports. Je prends également le cas de SNCC. Qui, toujours à la même période, avait à la tête les contrats avec les Français, dans les contrats des sociétés, et qui a mal tourné, et les Français sont partis. Alors, tout ça, c'est vrai, Madame Joséphine l'a dit, c'était sous l'élite, quand même, du PPRD.
Non, écoutez, vous confondez d'époque. Nous n'étions pas à l'époque du Imper.
Ça, ce n'est pas l'époque du Imper.
Oui, le PPRD n'est pas le PPRD n'est pas le parti État. Ça veut dire que les entreprises étaient gérées par des managers. Nous avons connu des bons managers.
En majeure partie, c'était du PPRD.
Nous avons connu des bons managers et des mauvais managers. Et je pense que plusieurs managers ont été sanctionnés. D'autres ont été démis de leurs fonctions. À l'ONATRA, combien de DG n'avons pas nous vu être révoqués? Parce qu'ils ont mal géré les entreprises. Au FPI, nous avons vu des gens être remplacés. Combien de DG n'ont pas été remplacés pour cause de malversation? Combien n'ont pas été interpellés par la justice?
Peut-être parce qu'ils n'avaient pas tapéré aux consignes.
Donc
du parti.
Moi, je pense que non, n'allons pas spéculer, vouloir à tout prix trouver le bouc émissaire de ce pays. C'est le mal de ce pays, c'est le PPRD. Peut-être que vous voulez une dissolution du PPRD, mais c'est sous quand même le lit du PPRD que la démocratie s'ancre dans ce pays. Je pense que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un discours populiste. On est en train de parler d'une décision. Une décision qui a été prise par le Premier ministre, une décision à saluer, une décision salvatrice. Mais nous allons aussi plus loin, à dire qu'il y a eu des réformes qui ont été initiées par le président Joseph Kabila, ainsi que son gouvernement. À l'époque, le Premier ministre était M. Adolphe Mouzito et la ministre du portefeuille, Mme Jeanine Mabunda. Et cette réforme a été initiée pour permettre aux entreprises publiques de fonctionner de manière plus dépolitisée et pour rencontrer les assignations de l'État et s'agissant des établissements publics de travailler au service de la population.
Et quelles sont les chances que vous accordez à cette décision?
Non, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Donc nous ne pouvons que souhaiter, soutenir et espérer son application totale dans toute
Tshibala sa plénitude. Tshibala avait pris 26 mesures. Aujourd'hui, où allait-on?
Dans toute sa plénitude. Il faut encourager.
Parce que quand vous dites c'est le Premier ministre, mais nous avons vu des Premiers ministres
mais
passer,
nous soyons, mais
ils ont pris des mesures. Et qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, on est parti pour des bons côtés?
Ne soyons pas pessimistes. Je pense que le plus grand problème, c'est l'homme congolais. Ceux qui gèrent les entreprises congolaises aujourd'hui ne sont pas venus de Mars. C'est des gens qui ont grandi dans ce pays, qui ont acquis des habitudes dans notre société. Si vous avez un bon manager au sein d'une entreprise, quel que soit le parti d'où il vient, il va bien gérer cette entreprise. Mais si quelqu'un a déjà des mauvaises appréhensions, des mauvaises pratiques, lorsqu'il viendra, qu'il soit même du parti des anges, parce que selon vous, il y a certains partis des anges et d'autres partis des démons, il va agir de cette manière. Nous avons des dirigeants provenant du PPRD qui ont très bien géré des entreprises publiques. L'OFIDA, aujourd'hui, la DGDA, est une entreprise qui est très bien gérée. L'OGFREM, aujourd'hui, a même un siège qu'elle n'avait pas avant. La CNCS, elle est sur l'étendue du territoire. L'INPP, elle est sur l'étendue du territoire. Il y a certaines entreprises qui marchent. Il y a d'autres qui ne marchent pas. D'autres ne marchent pas parce que le passif hérité était trop lourd. Il y a des entreprises qui étaient déjà mortes en cessation de paiement. La Gécamines, elle était quoi en 1994 dans ce pays? La Régie des eaux, les gens parlent de la SNEL. La SNEL, d'abord, l'État doit combien à la SNEL? Les créances que l'État doit à la SNEL datent de quelle époque? Et se lèvent à quel montant? Il faut pas faire.
Et quand l'argent arrive, c'est des politiques qui
le
partagent.
Le problème de
l'entreprise.
Le problème de la SNEL.
Vous connaissez bien l'histoire de l'argent perdu à la SNEL il y a quelques années.
Écoutez. Vous voulez qu'on entre dans la politique ou qu'on parle des choses
des entreprises publiques, l'argent de l'entreprise que l'entreprise devait bénéficier, mais c'est plutôt des politiques qui en ont.
La justice existe. Mm-hmm. Quand il y a Anguille sous roche, la justice existe. Il y a un procureur qui doit faire son travail, et le procureur doit faire des instructions lorsqu'il y a Anguille sous roche. Pour éclaircir l'opinion publique. Ce n'est pas à moi, ici, sur votre plateau,
donc, si je comprends bien,
de
pour
pouvoir
vous,
faire
Patrick
le travail
Kanga,
du procureur.
Pour vous, cette décision aura effectivement des effets positifs, des
c'est
effets
directs.
C'est
une décision salvatrice. C'est une décision à encourager. Personne ne peut être contre cette décision qui, de surcroît, provient des pratiques plutôt que des obligations. Il n'y a jamais eu d'obligation pour que les entreprises publiques servent de vache à lait à leur autorité de tutelle. Et la réforme de 2009 était claire à ce sujet-là. Mais les gens se sont comportés de cette manière, de manière individuelle, pour parfois conserver leur poste, pour parfois créer des liens singuliers avec leur autorité. Mais ça n'a jamais été des pratiques encouragées par la loi.
Juste une dernière question avant de terminer. Est-ce que vous pensez que la prochaine mise en place des mandataires doit, disons, obéir aussi à ce régime de coalition? Ou bien il faut laisser la marge de manœuvre, c'est le chef de l'État, pour éviter ce genre de pratiques?
Écoutez, la mise en place...
Juste à une phrase.
La mise en place tiendra compte du contexte politique, mais l'essentiel, c'est de choisir des hommes qui vont travailler pour la population et pour l'État.
Patrick Kanga, merci d'avoir accepté notre invitation et nous rappelons que vous êtes le rapporteur au bureau politique PPRD. Et merci d'avoir échangé avec nous, avec l'ensemble de la population au cours de cette émission pour première fois qui vous reçoit. En tout cas, c'était un plaisir pour nous dans cette émission. Nous disons également merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs qui va se consacrer sur la semaine de la Belgique qui s'ouvre déjà aujourd'hui. Et demain, on fera le bilan sur la réouverture des activités des centres de délivrance des visas, communément anciennement appelés maison Schengen. À très bientôt.